RTVFM.
RTVFM. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur RTVFM. RTVFM Sport ce soir avec notre invité Christophe Berthelot, le président du Motobol de Carpentras, avec qui on va revenir sur sa saison. On ne sait pas si on doit dire superbe saison mitigée. On va y revenir longuement à partir de 18h10, 18h15. En attendant, on aura les résultats du week-end et puis on fera un petit tour d'horizon avec Christophe si il veut bien participer sur les différents sujets, les différents résultats du week-end. Avec moi Théo à la technique.
Salut Jean-Yves.
Salut Théo. Valérie nous a lâchement abandonné comme à chaque vacances. Un petit coucou à Valérie qui doit nous écouter dans son Ardèche là-haut. Et puis un petit coucou aussi aux gens du GBL à Mazan, la gym boxing loisir, avec qui j'ai passé l'après-midi et on s'est régalé. Donc petit salut amical à Bruce et David. Voilà pour les résultats du soir. Et ben on aura du foot, on aura du rugby, on aura du rugby à 13, on aura du hand, on n'aura pas de motoball puisque la saison est finie, mais en tout cas on en parlera longuement. Mm-hmm. Voilà. On va commencer maintenant avec les résultats. Allez, donc pour vous dire qu'en football, en Régional 1, il y avait un match au sommet, un match en tout cas qui nous concernait, c'était le match de de Courtaison qui était du côté de Carqueiran. Les Courtaisonnais qui recevaient Carqueiran et qui ont fait le match nul 4-4 sur leur pelouse. Les Courtaisonnais qui se retrouvent 9e au classement. En rugby, la journée était presque complète avec la Fédérale 1, la Fédérale 3, c'est ce qui nous intéresse. En Fédérale 1, Bédarid Châteauneuf-du-Pape est allé perdre du côté de Nice sur le score de 35-13. Pardon, excusez-moi, j'en perds mes lunettes. Bourg-en-Bresse a battu Aubenas sur le score de 30-12. Bourgoin-Château-Renard, pas de miracle pour les Château-Renardais, qui après leur superbe résultat la semaine dernière espéraient faire un coup du côté de Bourgoin. Il n'y a pas eu de miracle, ils ont été défaits sur le score de 22-6. Castanet-Narbonne, pas de miracle non plus pour les banlieusards de Toulouse puisqu'ils ont été défaits sur le score de 24-49. Nîmes s'est facilement défait de Serré sur le score de 27-10. Et Mazamet hier à Carqueiran, les Varois sont allés l'emporter du côté de Mazamet, ce qui nous donne au classement premier Bourgoin, deuxième Bourg, troisième Aubenas, quatrième Narbonne. Les Bédaridés se retrouvent huitième au classement et puis en fin de classement, on retrouve Serré, Mazamet et Castanet qui vont avoir de réelles difficultés cette saison. Christophe, tu suis un petit peu le rugby ?
Bonjour à tous déjà.
Bonjour, pardon.
Pas tellement un sport que je suis, donc c'est difficile de donner des avis sur ce sport.
Allez, ça va. En Fédéral 3, la poule qui nous concerne, c'est la poule 6, où on retrouve quelques équipes locales avec Avignon-le-Pontet, qui est allé faire un bon coup du côté du Brusque et du côté de Sifour, et qui revient avec une victoire bonifiée 3-20. Draguignan, Lille-sur-Sorgue, 30-24. Les Angles, ça a été remis. Ils devaient recevoir Monaco et les Angles n'ont pas pu recevoir à cause des prévisions météorologiques. Et finalement, il n'y a pas eu grand-chose. Aubagne-Uzès, pareil, remis pour cause de mauvaises prédictions météorologiques. Cavaillon-Aix, les Cavaillonnais se sont imposés sur le score de 8-6. Décidément, ce soir, je ne vais pas y arriver. Et Valréas a facilement défait le Mourillon sur le score de 36-18. Au classement, Le Pontet, qui continue son cavalier seul puisqu'ils ont 20 points en 5 matchs. Deuxième, Aix avec 17 points. Troisième, Draguignan. Quatrième, Cavaillon. Les Angles et les Sursorgues, sixième. Huitième, on retrouvera Aubenas. Le championnat, là aussi, promet d'être sympa. Et surtout, pour nos amis du Pontet-Avignon qui réalisent vraiment un gros début de championnat. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard dans la saison avec eux. puisque j'espère les avoir au micro très vite. En promotion d'honneur, un dernier résultat, il y avait un énorme match du côté de Sorgues, puisque c'était le derby du Vaucluse, et les Sorguais qui recevaient la nouvelle entente Saint-Saturnin-Monteux. Les Sorguais qui ont été défaits sur leur pelouse de la Plaine Sportive sur le score de 12 à 23. On va passer maintenant au handball, si je retrouve bien les résultats. Voilà, le handball en National 2 féminine. Les Mazanaises se déplaçaient en Corse du côté d'Ajaccio, et les Mazanaises sont revenues avec une superbe victoire, 21-27. Les Mazanaises qui, du coup, avec cette victoire à l'extérieur, se remettent d'aplomb au classement anglais, puisqu'elles effacent leur contre-performance de la journée précédente face à Antibes. Et on retrouve les Mazanaises cinquième au classement avec 10 points, sachant que la première c'est Lagarde avec 11 points. Les autres résultats, Cannes-Mandelieu, Montpellier 27-18, Antibes-Cagnes, les Antiboises qui avaient battu les Mazanaises 38-24, Toulon-Saint-Cyr, Lagarde 24-25, là il y a dû y avoir un match, c'était le derby toulonnais, Bouillargues-Plan-de-Cuc 29-35, Export de Bouc Ajaccio, l'autre club d'Ajaccio, 25-15. Et on l'a dit, Ajaccio-Mazan, les Mazanaises qui l'ont emporté sur le score de 21-27. En National 3 masculine, les Avignonnais, eux, sont allés s'imposer du côté de Marignane avec un score de 27 à 28. Voilà pour les résultats marquants du week-end. À signaler la superbe performance des joueurs d'Entraigue 13 qui ont, dans le premier tour préliminaire de la Coupe de France Georges Hillière, c'est la petite Coupe de France réservée aux équipes, on va dire, de fédérale, enfin, d'élite 2, décidément, ce soir c'est compliqué. Les Entraiguois ont sorti le tenant du titre, Bao, superbe résultat. Et voilà, encore une belle performance des Entraiguois qui finalement font un plutôt très bon début de saison. Ça promet avant le derby contre Carpentras qui aura lieu très très vite, il me semble, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Voilà pour les résultats. Juste un petit mot pour vous dire que le Pontet en rugby fait vraiment un superbe début de championnat avec 5 victoires au classement. Il se retrouve premier, il commence à faire le trou déjà au bout de la cinquième journée avec 20 points, ça fait une moyenne de 4 points par match, c'est plutôt intéressant. Les autres résultats, le rugby, pas plus à dire. On va peut-être passer une page musicale avant de revenir avec le motoball.
Flo et Oli, tu connais non? Petit biscuit. Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blues, plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes engueulade avec ma mère, à chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires, puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Ah, tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête, mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses, ne pense plus à rien, rien. Dit,
comme les autres en fait. Tu m'apportes que des problèmes à l'essor de ma vie. De toute façon je le pensais pas quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux. On croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier un petit m'a appelé monsieur. Par la fenêtre, j'atteins un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant je me remets ce vieux son de Biggie. Celui qui fait
It was all a dream.
Un seul sourire et mille pleurs. On attend la surprise comme les Kinder. Pour éviter de dire les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder. Toutes les questions sans réponse se baladent dans ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que t'y penses. Ne pense plus à rien.
Parlons sport sur RTVFM.
Allez, de retour au studio ici avec Christophe qui va nous parler de la saison de Carpentras Motoball. Une saison, Christophe, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette saison? Parce que on a l'impression que c'est une belle saison. Malgré tout, il y a deux échecs sur la dernière marche. Ça gâche un petit peu le plaisir. Tu avais annoncé en début de saison que tu voulais absolument un titre cette année. Et t'es pas passé loin deux fois. La coupe c'est presque un gâchis, on va dire. En championnat, on vous a cru perdu pour la cause il y a un mois, et puis finalement vous revenez dans la course presque miraculeusement et vous jouez le titre sur la dernière journée. Comment tu analyses toi cette saison, Christophe?
Moi, pour moi, après c'est une saison qui a été très pleine. Réussi pour moi pour l'instant. Après, quand j'ai dit que je voulais un titre, on a encore une dernière chance ce week-end. Maintenant, c'est vrai qu'en Coupe de France, sur la finale, on jouait déjà pas chez nous, on jouait à 3 dans l'Aube. Donc c'est là-bas très 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 compliqué. C'était vraiment une grande fête du motoball. Il y avait entre 4 et 5 000 personnes autour du stade. Donc c'était vraiment une grande fête.
Cap 3, ça redevient une place forte du motoball. Ça avait un petit peu perdu de sa superbe là, ces dernières années. En tout cas, on n'en parlait plus comme la forteresse imprenable. Et puis finalement, là, ils font le doublé cette année.
Ouais. Après voilà, c'est deux... Comme j'en discutais encore dernièrement avec les dirigeants de 3, que je connais bien, avec qui on s'entend bien aussi... Ils ont une façon de voir les choses qui est totalement différente de la nôtre à Carpentras, parce qu'ils ont des facilités, parce que c'est plus facile, on va dire, financièrement chez eux. Il n'y a qu'un gros club dans leur région, donc ça facilite quand même grandement. Il y a beaucoup de choses qui font qu'ils ont plein de facilités. Ça fait 3-4 ans qu'ils ont mis les moyens financiers derrière pour attirer le monde, je dirais, aussi bien en dehors du stade qu'à l'intérieur même de la structure et de leur équipe une. Cette année, Ils ont fait venir donc en début de saison un des joueurs, on va dire, phares de Neuville-de-Poitou, qui
était la place forte là, ouais.
Ouais. Donc évidemment que ça a déséquilibré Neuville, et on le voit puisque Neuville-de-Poitou aujourd'hui pointe à quatrième place. Et puis ça a renforcé Troyes qui était déjà très très costaud avec le Russe Roman Dessina, et puis des jeunes qui montent. Faut pas, voilà, faut leur tirer le chapeau. Voilà, donc ça a fait une belle confrontation quand même malgré tout, même si on perd là-haut 3-1. On n'a pas à rougir, on a défendu nos couleurs, on a joué au maximum sur cette finale. Bon voilà, après c'est comme ça. Sur le championnat de France, voilà, on a perdu, je pense, un ou deux matchs à l'extérieur.
On a l'impression sur le championnat que ça a été des hauts et des bas, et les bas au mauvais moment souvent,
ouais, mais...
des défaites que vous auriez pas dû concéder, alors du coup vous avez été obligé de cravacher.
On a cravaché dur, ouais.
Ouais, vous avez cravaché dur pour aller chercher des victoires que vous auriez pas dû non plus choper et que vous avez malgré tout réussi à accrocher. On vous a cru perdu pour la cause là il y a un mois où vous aviez fait un de ces fameux faux pas qui vous avait quasi privé du titre, et puis finalement miraculeusement vous êtes revenu dans la course sur les deux dernières journées.
Ouais après c'est un championnat, c'est long et difficile, surtout à ce niveau-là, et voilà, la moindre erreur ou le moindre faux pas à un moment donné ça pénalise. Aujourd'hui on a fait un beau championnat. Je dirais qu'on est à notre place, voilà. On va être honnête, aujourd'hui, Troyes mérite son titre. Ils ont gagné tous leurs matchs, ou gagné ou fait match nul. Ils ont perdu donc aucun match. Voilà, ils méritent ce titre. Maintenant, nous, c'est vrai que on aurait pu sur certains matchs faire un peu mieux. Le début de saison, l'équipe a eu du mal à se trouver, etc. C'était un peu compliqué.
Est-ce que vous n'avez pas eu ce fameux syndrome là des équipes championnes, et un c'est peu, toujours peut-être. Du mal à c'est les équipes, quel que soit le sport et quel que soit même on va dire le niveau, il y a toujours du mal à ranquiller derrière. Il y a une espèce de relâchement, une espèce d'impression d'être arrivé là où vous deviez arriver. On le voit souvent, que ce soit en foot, en rugby, par exemple en rugby, on voit cette année le champion de France Toulouse qui est en grande souffrance, le SOA l'an dernier à 13, qui avait été champion et qui a vécu une saison en enfer. Vous, c'était pas à l'enfer, mais non, mais il y a eu du mal, il y a eu du retard à l'allumage.
Ouais, voilà, et puis on va dire que on a peut-être inconsciemment aussi comme tu l'as dit, baisser un petit peu de rythme en début de saison, et voilà, on a bon après la saison, honnêtement, on finit vice-champion de France, et voilà, c'est on est fiers de ça aussi malgré tout, même si on aurait aimé être champion, mais voilà, c'est pas si mal que ça pour cette saison. On a des objectifs encore sur cette saison pour la saison prochaine. Et voilà, clairement, samedi, c'est le dernier événement à Carpentras, c'est la dernière date.
Alors samedi, c'est le trophée des champions.
Ouais.
C'est normalement le champion de France qui affronte le vainqueur de la Coupe de France. Le champion de France étant 3 et le vainqueur de la Coupe de France étant 3, le règlement prévoit que c'est le finaliste de la Coupe de France,
c'est ça,
qui dispute le trophée des champions. Quelle importance ça a, parce que pour les non initiés au motoball, dans d'autres sports on pourrait se dire que c'est la coupe à Toto. Dans le milieu du motoball, je sais qu'il y a une vraie attente et une vraie ferveur sur ce match là
Ouais, ben déjà parce que c'est le dernier de la saison, ça clôture la saison. Et non, le trophée des champions, c'est vraiment le match de fin d'année qui oppose théoriquement les deux meilleures équipes du championnat. Et aujourd'hui, ça l'est, puisque...
Premier contre second,
ça c'est indéniable. Et personne ne pourra nous l'enlever. Et est finaliste pour nous de la Coupe de France. Donc voilà, c'est un match qui est bien à sa place. Même s'il est tard dans la saison... Voilà,
Vous avez déjà coupé depuis 15 jours, ça va être. Vous avez maintenu la pression, vous avez continué à vous entraîner comme en plein milieu de saison où il y a eu une espèce de relâchement.
Non, là on a rien lâché et on lâchera rien. Et l'autre équipe, pareil, hein, ils vont descendre évidemment pour faire le triplé. Donc,
ce qui est rare finalement dans ce.
C'est très rare. Ouais. Ça fait très longtemps que ça ne s'est pas produit. Après, voilà, pour ceux qui viendront voir le match samedi et qui ne connaissent pas cette équipe, qui ne l'ont pas vu, c'est vraiment une très, 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 très belle équipe, très grosse équipe. Et voilà, avec une façon de voir les choses différente. Nous, à Carpentras, depuis des années, je me bats pour que ça reste du bénévolat. Et ça, c'est une fierté pour moi de pouvoir dire que voilà, tous ceux qui viennent défendre leur maillot et n'attendent rien en retour financièrement. Donc voilà, c'est vraiment les valeurs du clocher que nous défendons. Ben, face à l'ordre troyen,
est-ce que ton système et le système de la majorité des équipes maintenant, là aussi on parle de motoball, mais on pourrait parler de basket, de hand, de rugby, de rugby à 13, etc. Est-ce que, malheureusement, j'ai tendance à dire, ce système-là, cette philosophie-là, elle n'est pas en train de devenir un peu désuète? Bien sûr qu'il y a l'amour du clocher, même si on a de moins en moins dans les équipes de gamins formés au club qui font toute leur carrière dans le même club. Ça, c'est un fait. Mais est-ce que quelque part, il faut pas passer sur un autre système? On le voit, Troyes est passé sur un autre système avec plus d'argent, bien que, encore une fois, le modèle troyen, tu puisses pas le reproduire ici parce que il y a pas le même bassin d'entreprise, il y a pas et puis toi tu as quatre clubs d'élite à 20 km autour, donc forcément c'est plus compliqué. Mais quelque part, est-ce que malheureusement l'avenir il passe pas par professionnaliser et filer 4 ronds malgré tout?
Pour le faire, il faudrait
les avoir
déjà. Après, la problématique, c'est un peu qu'on va mettre le doigt dans l'engrenage et qu'après, on n'est pas le foot, on n'est pas.
Est-ce que du coup, ça te prive pas de quelques forces vives que tu pourrais attirer? Bien sûr que c'est trippant de recevoir une offre de Carpentras, le vice-champion de France, pour venir y jouer, mais on sent que t'as du mal par rapport à toutes ces équipes-là qui ont d'énormes moyens. On entend dire que du côté de Monteux, il y a un nouveau projet qui se fait en place avec un peu plus de moyens. Bah oui. Mais en tout cas, on l'a entendu, tu l'as entendu comme moi, probablement. Est-ce que ton système à toi et le système probablement de Camaré, de Valréas, etc., ça n'a pas un petit peu du plomb dans l'aile, malheureusement?
Non, t'en conformeras, non, honnêtement. À notre niveau, plus important, c'est de ne pas lâcher la formation et d'essayer évidemment de toujours de coller aux trois premiers de la liste, on va dire. Nous, on est dans un monde où on ne pourra jamais avoir les moyens. Alors, on pourrait, si on voulait, très honnêtement, défrayer des joueurs.
C'est quoi le budget d'une saison comme celle de Carpentras pour jouer, on va dire, le top 2 ou le top 3, tout compris?
Entre 90 000 et 120 000 euros, ça dépend des saisons.
Sans compter le renouvellement des motos.
Si. À l'intérieur, ouais.
D'accord.
On va dire que sur une saison comme la nôtre là, on va dépasser très certainement allègrement les 110 000 euros. Ça c'est certain. Voilà. Donc on va être, à mon avis, sur un budget entre 110 et 120 000 euros. Ouais.
Et si le problème de Carpentras c'était pas justement la richesse de la région motoball du Vaucluse, parce que comme on disait tout à l'heure, Carpentras, Monteux, Camaré, Valréas qui pointe le bout de son nez, Robion, Bolène.
On va dire que c'est un peu ce qui nous permet aussi de pas payer les joueurs, parce que on est tellement proches les uns des autres géographiquement, je tiens à le dire, que du coup les allées et venues entre clubs se font on va dire quasi naturellement, sans besoin d'avoir à payer pour appeler un joueur. Alors que dans des villes comme Troyes ou Neuville-de-Poitou, s'ils veulent faire venir quelqu'un, il n'y a pas d'autre système que de le payer. Comme l'a été Flores pour venir à Troyes, Roman Dessina a plus forte raison pour venir de Russie, etc. Donc nous, on n'est pas dans ce schéma-là parce qu'on a cette proximité des clubs.
Et l'entente entre les clubs. Alors je sais que c'est un sujet tabou dans la région, mais est-ce qu'il y a une réelle entente, est-ce qu'il y a un réel bloc Vaucluse par rapport à toutes ces équipes, est-ce que tout le monde joue réellement le jeu? On ne parle pas du dernier match, on sait ce qui s'est passé, on va y revenir deux secondes, mais est-ce que l'entente se fait correctement entre tous les clubs d'élite? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'un ou deux clubs de nuire aux autres?
Non, je ne pense pas que ce soit nuire aux autres. On va dire que dans les moments très difficiles, on sait se retrouver, s'épauler pour un projet commun. Les moments difficiles ou les moments importants, comme pour le championnat d'Europe des Nations,
on a su
il y a deux ans à quatre clubs faire quelque chose de vraiment sympathique. L'année dernière, bon, on s'est un peu mobilisé pour Robion. Tout ça, on arrive à le faire malgré tout. Après. Ça, je pense qu'on peut pas l'empêcher. Ça me semble être naturel. Chacun prêche pour sa paroisse. Moi, le premier. Et on me fait pas de cadeaux. J'en ferai pas. Et je n'en fais pas. Voilà. C'est, à un moment donné, c'est malheureux, mais voilà, c'est comme ça.
Justement, en parlant de cadeaux entre guillemets, on va y revenir parce que c'est un sujet qui a été évoqué. On a entendu ça et là que. Des gens souhaitaient, alors on ne parle pas du club de Carpentras ni du club de machin, il y a rien d'officiel, mais on entendait dire que le monde du motoball aurait préféré que sur la dernière journée, les Montiliens lèvent un peu lèvent un petit peu le pied pour favoriser le titre de champion de France. Et on a lu aussi des réactions de tes joueurs le lendemain du match ou même le soir même du match qui disaient ils font chier Camaré, ils ont joué la finale de leur Coupe du Monde pour nous empêcher d'être champion de France alors qu'eux aussi avaient quelque chose encore à jouer dans ce championnat puisque ils jouaient la troisième place me semble-t-il.
Moi je trouve ça, très honnêtement, je trouve ça logique.
Moi aussi,
y a pas, moi, à aucun moment je n'ai pensé à aller demander ce genre de choses. C'est pas du tout dans ma façon de voir les choses. Le sport a primé, la meilleure équipe ce soir-là à Camaré. C'était Camaré, Camaré a gagné.
En tout cas, celle qui a mis le plus d'implication, probablement.
Tout à fait. Et voilà. Et aujourd'hui, ils méritent leur troisième place, comme nous, on mérite notre seconde. Je trouve que voilà, l'ordre logique est respecté. De cadeaux, il n'y a pas à en avoir. Et comme je te disais tout à l'heure, on m'en fait pas, je n'en ferai pas non plus. Et voilà. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Le meilleur à gagner, c'est tout ce que je retiendrai pour ce match-là.
Cette saison aussi, elle a été marquée par le championnat d'Europe. Il y a eu le championnat d'Europe dernièrement, ou le championnat du monde.
C'était championnat d'Europe.
Où on a vu des joueurs vauclusiens. Œuvrer dans l'équipe de France, qui a eu du mal dans ce championnat par rapport aux nations fortes habituelles du motoball. Est-ce que toi, tu avais une paire de joueurs dedans, non, c'est ça?
Cette année, j'avais un senior et un junior.
Ouais. Est-ce que ça apporte quelque chose à ton joueur de partir avec l'équipe de France, hormis le fait que du coup tu l'as pas, mais est-ce que quand ils reviennent, ces joueurs-là, ils sont plus galvanisés, ils ont pris un peu d'ampleur, ou est-ce que finalement c'est un petit peu la coupe à Toto
Non, au contraire, après c'est un bel événement et pour un joueur de motoball, c'est. Voilà, comme j'ai toujours dit, le motoball existera tant qu'il y aura des bénévoles, tant qu'il y aura des équipes fortes et tant qu'il y aura une équipe nationale. Donc aujourd'hui, l'équipe nationale, c'est très important, c'est très important pour les joueurs. Mais après, ils peuvent revenir ou très fort ou en dedans. Ça dépend.
Si ça s'est pas bien passé.
Voilà, ça dépend un peu. Ça dépend un peu de ce qui s'est passé, de leur prestation individuelle, de la prestation collective de l'équipe de France. Enfin voilà, malheureusement, c'est pas que pour nous, c'est pour tous les clubs qui ont des joueurs sélectionnés. ça fait partie du jeu. On sait très bien que quand ils partent, voilà, c'est un peu l'aventure. Et
comment on fait pour sortir le motoball de l'anonymat? Parce que moi qui suis fan de rugby à 13, par exemple, quand je discute avec toi ou quand je parle de motoball, j'ai l'impression de parler de rugby à 13. C'est-à-dire avec une forte identité locale, localement dans le Vaucluse, on le disait, il doit y avoir entre élite 1 et élite 2, il doit y avoir quelque chose comme 6 ou 7 clubs, me semble-t-il. Régionalement, quand tu vas dans le Poitou, il y a une paire de clubs. Quand tu vas du côté de Troyes, il y a une paire de clubs. Il y en a aussi, il y en avait aussi à l'époque dans l'Est, me semble-t-il.
Il y en a toujours.
Il y en a toujours,
un ou deux dans l'Est. Ouais.
Voilà. Et mais ça reste malgré tout un truc super marginal. Quand tu vas au stade à Carpentras ou à Camaret ou à Monteux, il y a du monde. Mais dès que tu sors du stade, personne ne te connaît. Moi, cet après-midi, quand j'ai dit que je recevais le président du motoball de Carpentras, tout le monde m'a dit, mais c'est quoi le motoball? Alors que t'es capable de réunir au stade 2000 personnes.
C'est ça.
Et comment on pourrait faire pour sortir ce sport de l'anonymat? Parce que les gens qui viennent au stade, ils se régalent, ils reviennent.
Oui,
mais comment on fait pour...
Ils reviennent et ils amènent du monde et on a sans cesse, très sincèrement, chaque année,
je
vois des nouvelles personnes au bord du stade, en nombre. Après, sortir de l'anonymat, aujourd'hui, ça passera uniquement par les réseaux sociaux, par la retransmission audiovisuelle, des choses comme ça. Ça vient petit à petit. Il faut savoir que dans le dernier championnat d'Europe a été, en France, avait été télévisé sur il y avait une chaîne spécifique Motoball qui s'était créée.
Là aussi, pour le championnat d'Europe, là, cette année.
Cette année, ça y était encore. Ouais. Et cette année, on a passé un cap supplémentaire puisqu'ils sont venus aussi pour. Ils ont retransmis la finale de la Coupe de France en 4-3.
Ouais.
Donc ça, c'est visible sur une chaîne qui s'appelle Pro Motoball. Promotoball.ru, c'est une chaîne, ce sont une équipe russe qui vraiment, c'est vraiment des professionnels et
ouais, il y a une superbe qualité, absolument.
Donc aujourd'hui, je pense que ça passera par ça. Ça va passer par malgré tout, on sera obligé d'y venir et c'est déjà le cas pour les faire venir. Ben, on est obligé quand même de financer, même si c'est pas énorme, mais il faut financer. Et aujourd'hui, je pense que si on veut que le motoball sorte de l'anonymat, ben, il va falloir développer ce genre d'action.
Est-ce que vous ne souffrez pas comme tous les sports mécaniques? Parce qu'on le rappelle, le motoball, c'est affilié à la Fédération française de motocyclisme. Est-ce que vous ne souffrez pas comme tous ces sports mécaniques, la Formule 1, le rallye, la moto, l'enduro, etc., de la montée des vers là qui vont emmerder? Alors on sait que du côté par exemple de Vaison, on a été obligé de fermer le stade parce que les riverains couinaient. À l'époque, Monteux jouait dans un stade qui était proche du centre-ville et ça avait couiné aussi. Toi, t'as été obligé de t'expatrier complètement à la sortie de Carpentras. Est-ce que à un moment vous êtes pas aussi victime de ça et ça freine pas votre développement?
Alors,
en tout cas, est-ce que ça balance pas une mauvaise image?
Ouais, pour certains clubs, ça a fait beaucoup plus que ça, puisque ça a fait en sorte qu'ils se sont
arrêtés. Le club
a disparu.
Maison.
Après, derrière ça, il y a toujours, malgré tout, enfin voilà, on gère un club, on gère une structure avec, bon, moi pour ma part, plus de 80 bénévoles. On a d'énormes responsabilités sur nos épaules. Quelque part, on est un peu des chefs d'entreprise, hein, donc on se doit d'anticiper les choses et de préparer un éventuel problème de ce type. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a aussi le fait que on n'anticipe pas la chose. Quand la chose arrive, on fait on style que c'est pas arrivé, on la prend par-dessus l'épaule et puis à la sortie, ben on est vite au tribunal et on est vite donc moi j'ai pas cette façon de voir les choses. Moi je préfère affronter en direct lorsqu'il y a un problème, on voit de suite la personne, on en parle. Voilà, on essaie de. Je sais que dans d'autres clubs, ça se fait aussi à Camaret, etc.
Camaret, ils ont le stade voilà. En plein centre du village.
Mais aujourd'hui, la meilleure opposition qu'on peut donner à ces gens-là, c'est au contraire de les faire venir,
bien sûr,
de dialoguer avec eux et qu'ils comprennent que nous, on n'est pas contre eux. Nous, on veut juste On veut juste profiter de notre passion, mais par contre, comme je leur dis toujours, c'est dans le respect de le plus possible, dans le respect de nos voisins et de l'environnement.
Est-ce que ça passe pas aussi par un changement de matériel? On avait vu il y a deux ans là, à Camaré pour le championnat d'Europe, on avait vu des motos électriques qui font pas de bruit, du coup qui ça enlève un peu du fun du motoball, hein, parce que ça fait partie aussi, le bruit, la moto, ça fait aussi partie du motoball. Mais est-ce qu'à un moment, vous n'allez pas être obligé de passer sur ce type d'engin pour continuer à exister? Alors, je te vois faire une grimace, mais j'en ai déjà parlé à d'autres qui font la même grimace que toi. Ça enlèvera forcément un peu de plaisir, de même que faire de la Formule 1 et des voitures qui font pas de bruit, des voitures électriques, c'est absolument chiant à regarder et à écouter, mais... Est-ce que ça va pas passer par là, malheureusement, si vous voulez continuer à exister, à attirer des partenaires à...
Peut-être. Et
cache ta joie.
Ouais. Non, mais après, moi, j'étais un fervent défenseur à un moment donné aussi de la moto électrique, plus que défenseur, puisque je fais partie d'un projet au sein de la FFM, que j'étais à la commission de motoball pour essayer de trouver des solutions, et l'électrique en était une. Mais aujourd'hui, la solution n'est pas aboutie, elle est trop onéreuse pour les finances de la majorité des clubs français, hormis une ville ou trois qui arrivent à se payer des flottes complètes de motos. Mais après, pour les autres clubs, c'est vraiment trop trop compliqué, quoi.
On va revenir sur l'aspect matériel juste après une petite pause musicale.
Pas de souci.
Allez.
Si vous croyez que certains vous ont offensé, car c'est...
Parlons sport sur RTVFM.
Allez, on est de retour ici au studio, toujours avec Christophe, le président du motoball de Carpentras. Christophe, en off, on parlait de l'école de motoball. Enfin, on ne parle pas d'école de motoball, on parle d'équipe junior. Raconte-nous un petit peu où en sont tes juniors et quel est l'état des lieux des juniors de manière générale, parce que c'est un sport, le motoball, qu'on ne peut pas commencer aussi tôt que d'autres sports. Comment on vient au motoball déjà? Donc déjà les juniors, et puis après on va revenir sur le comment on vient au motoball.
Voilà, pour perdurer, je disais tout à l'heure, en tant que club de motoball, aujourd'hui la forme, on s'en rend compte, les clubs qui durent sont les clubs qui forment. Donc nous on forme depuis 2008, avec des très bonnes saisons, des mauvaises aussi. Et cette saison, la saison dernière a été une très bonne saison, puisqu'on est vainqueur de la Coupe de France junior. Cette année, on a vécu aussi une très belle saison de junior, beau championnat. On finit seconde de la zone sud, juste derrière l'équipe de Camaret.
La demi-finale, on va dire, enfin, le match qui aurait dû vous permettre de jouer la finale, c'était en levée de rideau de votre fameux match à Camaret aussi, et même sanction, malheureusement.
Oui. Oui, pour des raisons différentes, mais oui, après, on perd 2 à 1, donc ça se joue à un détail, malheureusement, un ou deux détails, mais voilà, ils ont fait une très très belle saison. L'ensemble du bureau, moi-même, on s'est déplacé mercredi dernier pour les féliciter. Voilà, après, c'est vrai qu'on forme depuis l'âge de 13 ans, donc de 13 à 18, ça fait 5 ans, et 5 ans, c'est long. C'est nécessaire.
5 ans de junior.
Ouais, c'est nécessaire. Hein, c'est nécessaire parce que il faut ça pour acquérir toute la technique, tout ce qu'il faut acquérir pour essayer d'envisager d'aller jouer ensuite en équipe élite 2 ou élite 1. Bon, voilà, après, c'est tellement long que je pense qu'il y a des joueurs qui
se lassent.
Qui se lassent à la fin. Ou qui a envie d'aller voir ailleurs, et bon, c'est ce qui va se produire pour un ou deux joueurs cette la saison prochaine en junior. C'est pas la majorité, Dieu merci. Aujourd'hui, on est content de former parce que malgré tout, à Carpentras, on s'est toujours appuyé et ça a toujours été ma politique de former des jeunes et ensuite de leur donner leur chance. Mais on a forcément dans ces 5 ans de formation, on a ce que j'appelle de la perte au feu. C'est-à-dire que voilà, il y a un petit peu de déchets entre guillemets. Ça fait toujours râler d'avoir formé
les jeunes. Gamins s'arrêtent ou alors ils partent? Parce que si à la limite ils partent quelque part, tu peux te dire que tu as formé et tu vas récupérer d'autres gamins. Si par contre ils s'arrêtent complètement,
non, c'est pas le cas. Ils s'arrêtent pas. Il va signer très certainement dans un autre club. Bon, voilà. C'est la loi du sport, c'est la loi de notre sport, et il faut l'accepter. Puis voilà, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait ce pas-là et qui ont rapidement fait le pas inverse. Donc voilà.
Comment on vient au motoball si on n'a pas un papa qui a joué au motoball et... Parce qu'il n'y a pas d'attraction. En fait, est-ce que c'est des petits motards qui viennent? Est-ce que c'est des footballeurs?
Pas forcément, il n'y a pas de règles, mais souvent, et ça c'est un plus pour nous, c'est souvent des petits qui ont passé souvent les samedis soirs au bord de nos stades, et qui ont envie de jouer parce qu'ils ont vu un tel ou un tel jouer, et c'est un peu leur idole et ils voudraient arriver. Voilà, c'est vraiment des férus ou des supporters. Souvent des supporters de par leurs parents.
Ça coûte cher pour une gamine de jouer au motoball?
Non, non, non. La licence, c'est tout. Après, quelques équipements, mais minimes. Le club fournit tout, donc non, ça coûte pas cher. Après, ce qu'on demande beaucoup, c'est que dans cette structure junior, chaque fois qu'on intègre quelqu'un, c'est que les parents soient partie intégrante aussi de, on va dire entre guillemets, de, et soient acteurs au sein de,
du club,
ou peut-être même pas du club, au sein de la structure, mais soient acteurs. Parce qu'il n'y a rien de plus beau pour un gamin d'avoir son père ou sa mère qui est au bord du stade et qui l'encourage.
Est-ce que vous arrivez, vous, à générer ça? Parce qu'on voit dans certains sports, juste une aparté, mais moi je suis éducateur dans un club de rugby, on a quelques parents, une moitié de parents qui sont des fanas, même s'ils n'ont jamais joué, et on arrive à fidéliser ces gens-là. Mais on a aussi les parents qui viennent, qui déposent leur mioche à la garderie. Est-ce que vous avez ça, vous aussi?
Oui, pareil. Pareil, alors c'est évidemment moins. Enfin, pour nous, c'est plus problématique parce que forcément, il n'y a que 5, 6, 7 joueurs. Donc, s'il n'y a que la moitié des parents, voire un 3, peu moins, tu vois, ça fait que 3. Et ouais, c'est compliqué, quoi. Donc, on essaie vraiment de faire en sorte qu'on ait le maximum de gens qui accompagnent les enfants. Et voilà, c'est vraiment important pour eux.
Comment tu parlais tout à l'heure de Troyes qui avait réussi à créer un truc avant les matchs, pendant et après. Comment vous, à Carpentras, vous pouvez rivaliser là-dessus? On sait que maintenant tous les clubs de sport en général font des hospitalités pour les sponsors. Ça, aucun doute, vous savez le faire. Recevoir un mec qui vous a filé 4 euros, vous savez le faire. Mais comment... on voit dans les clubs de foot ou de rugby des structures presque qui s'occupent des mioches pendant le match, pendant que leurs parents viennent au stade. C'est important ça aussi, de par exemple de créer une structure gonflable là et de permettre aux parents de regarder le match tranquille en se disant que leurs gamins seront bien surveillés. C'est un exemple comme un autre, mais qu'est-ce qu'ils ont fait trois de plus que les autres pour justement pouvoir créer un truc autour? Je me rappelle être allé à Valréas il y a quelques années où pareil, il y avait une vraie convivialité, il y avait un vrai truc qui se passait autour du terrain avant que ça tombe un peu, que ça dégringole. Mais
après, il n'y a pas de règle générale, il faut arriver à créer quelque chose, et avant toute chose, j'en reviens toujours à ça, mais il faut là où les personnes qui s'occupent de ça, à partir de ce moment-là, on peut faire et créer plein de choses, je dirais même à moindre coût. Mais après, voilà, il faut la personne, et la personne qui a envie, ou les personnes qui ont envie de faire ce genre de choses et de s'occuper de ce genre de choses. Après, trois tirent essentiellement leur, on va dire, leur richesse, entre guillemets, du fait qu'ils ont beaucoup de sponsors je dirais qu'il arrive du foot, quoi. Parce qu'il faut savoir que le
ouais,
stade...
C'est
à côté, c'est contre. Hein. Vous avez le stade de l'Aube et juste devant, il y a
d'ailleurs,
le stade de Montauban.
D'ailleurs, il y a eu un truc cet été avec l'équipe de France Espoir, je crois, de foot, qui avait été obligée de s'arrêter parce que le motoball s'entraînait, ça les perturbait.
Oui, c'est la proximité. Alors, la proximité, elle a des mauvais côtés, elle en a des bons, puisque aujourd'hui... Aujourd'hui, on va dire les sponsors qui étaient habituellement certains qui étaient avec le foot ont basculé avec le motoball. Et je pense qu'ils y trouvent leur compte, parce qu'aujourd'hui, quand on voit un stade qui est rempli, bondé comme on a pu le voir, et ils n'avaient jamais vu ça de mémoire là-bas à Troyes, lorsqu'on y est allé jouer, il y avait entre 4 et 5 000 personnes. Aujourd'hui, ils y trouvent leur compte et j'allais dire tant mieux, quoi. Tant mieux.
Comment on fait dans une ville de 30 000 habitants pour récupérer 100 000 euros de budget pour faire une saison en élite?
On crée beaucoup de choses, on fait beaucoup d'événements, on essaie de rentrer en permanence de l'argent, et on a une politique de sponsoring je dirais qui est évidemment moins prononcée que sur les clubs dont on vient de parler, mais aujourd'hui on n'a pas à rougir de notre politique de sponsoring et de ce qu'on fait pour la maintenir et la développer, et ça va aller que j'en suis sûr que de mieux en mieux. qu'aujourd'hui on a quelqu'un qui va au sein du club s'en occuper vraiment.
C'est presque devenu une obligation maintenant d'avoir quelqu'un qui, même bénévolement, mais quelqu'un qui,
c'est obligatoire.
Qui va chercher des sponsors, qui va chercher des partenaires.
Jusqu'à présent, on va dire que j'arrivais suffisamment à me démultiplier pour m'en occuper moi, mais aujourd'hui, pour des raisons professionnelles et privées, j'allais dire, j'ai plus ni le temps ni la capacité de faire ce genre de choses pour le club, même si j'en fais encore et voilà, mais aujourd'hui c'est tellement d'investissements en temps que j'ai plus la capacité de le faire, donc on a quelqu'un qui va prendre ce rôle à part entière. Ça va être beaucoup plus simple pour lui que ça ne l'était pour moi, parce qu'il va démarrer avec toutes les bases que j'avais mis en place. Et voilà, c'est quelqu'un qui est supporter du motoball depuis des années. C'est quelqu'un qui va, je suis sûr, bien développer la chose.
Il vous faut presque des commerciaux maintenant pour aller démarcher ces mecs-là, même si encore une fois c'est du bénévolat. Mais il va vous.
Après,
on a besoin de commerciaux dans les clubs pour aller vendre le produit.
Mais complètement. Et moi, il y a quelques années de ça, quand je m'occupais pleinement de ce budget sponsoring. J'avais envie de trouver quelqu'un qui m'épaulerait, et voilà, à la limite je lance peut-être ce soir un appel aussi s'il y a
quelqu'un de bonne volonté, un auditeur
qui est de bonne volonté et qui veut nous rejoindre. Voilà, c'est avec grand plaisir.
En général, ces fameux auditeurs de bonne volonté, capables d'aller chercher de l'argent, ils ont été piqués par d'autres structures aussi, parce que toutes les structures ont les mêmes problématiques. Il faut aller chercher de l'argent. Les budgets municipaux et les budgets des collectivités se raréfient.
Tout à fait.
Et ça devient de plus en plus compliqué.
Ouais. Enfin, oui et non. Nous, on travaille parallèlement. On n'a pas que le budget sponsoring. On n'a pas que. C'est vrai qu'on en aurait plus, ça serait mieux. Plus de budget sponsoring serait mieux, plus de subventions serait mieux, bien sûr que ça serait mieux. On travaille pour ça. Après, voilà, c'est pour ça qu'on veut avoir des bons résultats et continuer à avoir des bons résultats. C'est parce que ça fait partie d'un ensemble.
On reparle deux minutes du matériel. Combien de motos tu renouvelles dans l'année? Comment tu t'y prends? Est-ce qu'il y a des. On sait que, par exemple, Monteux, cette année, a beaucoup pêché par un problème de matériel, avec des motos moins performantes, des motos qui tombaient en panne et ça leur a coûté quelques matchs. Est-ce que pour remédier à ça, vous trouvez des solutions, en tout cas vous anticipez et vous renouvelez plus souvent le matériel? Comment on s'y prend, comment on gère le parc?
En fait, il y a deux choses. Il faut travailler sur deux axes. Depuis le début de ma présidence, j'ai travaillé sur deux axes. C'est premièrement renouveler chaque année ou quasi chaque année le parc en achetant au minimum une moto par an, de façon à pas avoir un parc qui vieillisse trop vite.
Une moto, c'est
7500 euros.
D'accord.
Donc, parallèlement à ça, c'est bien beau d'avoir des motos neuves, mais à côté, il faut l'humain. Et ça, l'humain, il est hyper important. Donc, moi, comme je le dis, à Carpentras, j'ai une chance énorme d'avoir une équipe de mécanos. J'ai une équipe de joueurs, j'ai une chance énorme d'avoir une équipe de dirigeants autour de moi.
Qui sont les mécanos, qui sont presque aussi importants que les joueurs, parce qu'ils travaillent, ils travaillent avec des bouts de ficelle souvent pendant le match, dans la précipitation, et ils font souvent des miracles, mais on le voit à tous les niveaux. Je me souviens pendant le championnat d'Europe il y a deux ans, où on voyait les mécanos des équipes. Ce qu'on voit le samedi dans les clubs, on le voit à la même échelle au niveau international. Les mecs font des miracles avec un bout de Chatterton et une mauvaise pince.
Ouais. Après, ça, c'est sur les matchs, mais il faut savoir qu'il y a un énorme travail, je crois,
de préparation.
Les mécaniciens, aujourd'hui, moi, j'ai une équipe de mécaniciens. Quand j'ai une équipe, c'est 3-4 personnes qui, aussi bien pour les juniors que pour l'équipe 1, travaillent quasi sans relâche, quoi, il faut le savoir. C'est-à-dire que. On parle des motos neuves, c'est bien, mais il y a les autres motos aussi, et il faut les entretenir. Donc, à la trêve, là, à partir de lundi, on va dire que potentiellement ils vont commencer à démonter les motos. Ils passent tout l'hiver à démonter et remonter les motos. pour démarrer au mieux la saison d'après. Et lors de la saison, enfin, ils arrêtent jamais, comme beaucoup de dirigeants du motoball, il faut le savoir. On n'arrête jamais, on est toujours sur la sellette. Et voilà, je tire encore une fois ce soir un grand coup de chapeau à mes mécanos, parce que sans eux, ça serait impossible. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est faut travailler sur les deux axes. C'est faut travailler sur le renouvellement régulier du parc, mais il faut aussi avoir les bons bénévoles, parce que voilà, un mécanicien, c'est comme tout, il faut avoir un bon mécanicien pour entretenir les motos, c'est hyper important.
Il y a des pilotes qui sont plus brise-fer que d'autres, ça.
Ah oui,
il y a des mecs qui cassent plus de matériel que d'autres et qui sont connus pour ça.
Ouais, connu pour ça, je sais pas, mais oui,
ça,
après
ça peut rentrer en ligne de compte au moment d'un recrutement, par exemple. Non. C'est le talent du joueur.
Non, franchement, non, on regarde le talent. Après, on sait, oui, les mécanos savent que s'ils voient une telle arriver, ils vont avoir un peu plus de travail que voilà. Évidemment, mais non, après, il y a certains postes qui font que on est obligé à certains postes, on est obligé quasiment de renouveler la moto tous les deux ans. Et c'est ce qui va se passer cette année parce que voilà, parce que la moto est soumise à rude épreuve, non pas forcément dans les chocs, oui ça compte aussi les chocs, mais aussi dans la façon de jouer, dans les accélérations, dans les torsions de la machine, etc. Et voilà, donc on sait que il y a des postes qui sont plus sur lesquels on doit passer plus de motos.
Toujours sur la partie technique, il y avait un petit débat là il y a quelques temps, à savoir si c'était mieux de jouer sur la gravette, sur du goudron. On en est où à Carpentras? On est toujours sur de la gravette?
Ouais, on est toujours sur de la clapissette. Après voilà, on réfléchit à un projet de stade en dur. Aujourd'hui, c'est pas fait. Moi, je suis comme, pour ceux qui me connaissent, je suis un peu comme Saint Thomas, donc je parle pas des choses qui se
font
pas.
Ça aussi, c'est un budget.
Ouais, c'est un budget qui sera de toute façon que le club ne peut pas assumer. Voilà. Donc,
c'est quoi le budget pour convertir un stade?
Disons que pour un stade de cet ordre-là, c'est grosso modo le budget de deux saisons.
200 000.
Un peu plus de 200 000, ouais.
D'accord, avec une réelle incidence sur la façon de jouer, sur les résultats.
Sur les résultats, oui, et pas forcément en notre faveur.
D'accord.
Parce que bon, malgré que mes joueurs aiment jouer sur cette surface, le fait d'avoir un terrain clapissette, malgré tout, ça nous procure un avantage par rapport à des équipes comme Troyes et Neuville qui tournent sur des surfaces bitume ou béton rapide. Ça sera plus le cas si on passe sur du bitume.
Camaré bitume.
Camaré est un bitume, ouais, aussi. Ouais. Donc oui, après, on va dire que c'est le développement par le sport qui, au niveau international, qui va nous y obliger entre guillemets. Rien d'obligatoire.
Les gros pays maintenant sont
toutes les plus grosses nations, bitume, hein. L'Allemagne, la Russie. Sont sur surface rapide, donc bitume en grande partie, ou béton, mais souvent du bitume. Aujourd'hui, l'évolution du motoball fait que très certainement voilà, le futur va être sur de la surface en dur.
Ça accélère le jeu beaucoup.
Ça accélère beaucoup le jeu, ouais. Ça accélère beaucoup le jeu, c'est un jeu qui est plus direct, plus propre,
spectaculaire aussi pour les gens qui sont autour.
Spectaculaire, j'allais dire oui par la vitesse.
Moins oui, par le talent des pilotes, du coup.
Mais moins par le talent des pilotes, ouais. Un peu c'est pas le même jeu. Voilà, c'est un jeu qui est le jeu sur la clapissette, c'est un jeu qui est beaucoup plus en douceur, beaucoup plus en glisse, on va dire. Mm-hmm. Aujourd'hui, après sur le bitume, même si on glisse un peu, mais c'est pas pareil.
Allez, il nous reste 2 minutes. Je vais te laisser nous vendre le trophée des champions pour samedi, puisque c'est l'événement de fin de saison ici à Carpentras.
C'est ça.
Avec ce match contre Troyes, le vice-champion de France contre le champion de France. On va dire la finale officieuse de la saison. Allez,
En tout cas, pour nous, ouais, effectivement, ça sera vraiment la finale, le final de cette saison 2019. Les horaires sont spéciaux, donc je tiens vraiment.
Il y avait un truc dans le journal aujourd'hui. Ouais,
tout
avec,
à fait. Hein. Donc, en ouverture, on a la finale du championnat de France U18 junior qui opposera Camaré à Neuville-de-Poitou. Ça sera à 14h. Et ensuite, donc, le trophée des champions qui opposera donc Carpentras à l'équipe de Troyes se déroulera à 17h. Donc, attention. Par rapport à tous ceux qui connaissent l'horaire de nos matchs habituels, ça se joue normalement toujours à 19h. Là, attention, c'est à 17h.
Redonne-nous juste l'adresse du stade pour les gens qui ne connaissent pas et qui voudraient venir voir.
Stade René Pons, c'est à Serres, c'est à la sortie,
derrière, ouais. Ouais,
juste à la sortie du hameau de Serres. On ne peut pas le louper. Quand vous traversez le hameau, vous avez un panneau motobol juste à la sortie, le panneau fin d'agglomération de Serres au-dessus. Tourner à gauche, direction Motoball, c'est un stade qui est dédié au Motoball.
Merci Christophe, merci pour ta disponibilité. Puis,
merci à vous de l'invitation.
Croisons les doigts pour samedi. En tout cas, je pense que je serai dans les tribunes et je viendrai encourager les Carpentrasiens.
Merci, avec plaisir.
Merci Christophe, merci Théo. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec comme invité Pascal Vassé du handball de Mazan, qui viendra probablement avec soit l'entraîneur, soit une des joueuses cadres de l'effectif. Ça sera la surprise. En tout cas, Pascal Vassé, c'est sûr. Et on évoquera son début de saison. Et puis, les ambitions, parce qu'il y a un projet National 1 qui se prépare. Rendez-vous lundi prochain, 18h, 19h, RTV, c'est rtvfm.net ou 102.2. Bonsoir.
Bonsoir.